I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Élise Le. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Sophie Bourdet, Charles Arden et Emmanuel Dupuis pour parler ensemble de la Traviata de Verdi, au Théâtre des Champs-Élysées en ce moment. Un autre Verdi, Simon Boccanegra, à l'affiche de l'Opéra Bastille. Un disque à notre sommaire, des sonates de Scarlatti par Jean Rondeau chez Erato. Et puis un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour un peu de suspense après tout. On verra bien tout ça tout à l'heure. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Rêve et Folie de Claude Régis. Ce sont des places à gagner pour jeudi 6 décembre, autant dire après-demain. C'est à 20h30 au Théâtre Nanterre à Mandier, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Théâtre des Champs-Élysées pour une nouvelle production de la Traviata de Verdi, dirigée par Jérémy Rohrer, mise en scène Deborah Warner. C'est un opéra en trois actes sur un livret de Francesco Maria Piave, d'après La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, opéra créé à Venise, à la Fenice, il y a 165 ans, 1853. Je donne la date, parce que tout à l'heure on parlera de Simon Boccanegra, on verra comment ça s'inscrit dans le parcours de Verdi. Pour rappel, Violetta est courtisane, sa santé, vous le savez, est fragile. Mais elle rencontre enfin, oui, je vous apprends quelque chose, Charles Arden, visiblement. Elle rencontre le grand amour, en la personne d'Alfredo Germante. Elle choisit de renoncer, par amour pour lui, à sa vie mondaine parisienne, mais elle devra... toujours par amour, je ne divulgage pas trop, faire un autre sacrifice. Plus grand encore. Retenez vos larmes. Bon, le TCE ne nous ayant pas fourni d'extrait de ce spectacle, on va écouter Vanina Santoni, la Violetta de cette production, mais dans un air enregistré, Adio El Passato, enregistré il y a quelques mois, au TCE toujours, avec l'Orchestre National d'Île-de-France.
Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso le ho svelato, e lì a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germo. È tardi! Attendo, attendo, né a me giungo mai. Oh, come son muto.
Eh bien voilà, nous l'avons entendu, celle qui vous a fait vous pâmer les uns, les unes, les autres. Je vous ai lu, Sophie, dans Télérama, et je sais bien.
Ah, je ne pourrais pas déguiser mon sentiment.
Non.
C'est trop tard.
Vous voulez un tissu pour les larmes qui coulent sur vos belles joues?
J'y pense.
Alors, révélation, enfin, on l'a déjà entendu quelques fois.
Oui, on l'avait entendu dans La Nonne Sanglante, notamment à l'Opéra Comique.
Oui.
Moi, je l'avais trouvé plutôt bien, mais là, elle m'a bluffé. Elle m'a vraiment bluffé.
Je recherche son nom parce que j'ai perdu la
Vanina
feuille.
Vanina Santoni.
Merci.
Grand Paris de Michel Franck, qui est le directeur du Théâtre des Champs-Élysées. Et Grand Paris, bien tenu, parce qu'elle a fait plus qu'assurer. Avec une voix qui n'a fait que s'affermir au fil de... Moi, j'ai vu la première, donc au fil de la première. Une ligne de chant qui a parfois vacillé, mais on sentait vraiment que c'était le stress de cette première plutôt qu'autre chose. Et je pense que les représentations suivantes, ça devait être beaucoup plus solide. Et surtout, une incarnation dramatique absolument sidérante, avec une manière de faire rentrer le drame dans le rôle très progressivement et du coup, de faire exister le personnage d'une manière qui, moi, m'a totalement convaincu et même bouleversé.
Convaincu, Emmanuel Dupuis ?
Je dirais que ma satisfaction est allée crescendo, parce que au début je la trouvais, bon, alors effectivement, comme le dit Sophie, moi aussi j'ai assisté à la première et je pense qu'il y avait une certaine tension due à cette première et à cette prise de rôle. Effectivement, ce n'est pas rien. Donc au début, je la trouvais pas très à l'aise avec la tessiture, les aigus étaient souvent trop hauts, chantait toujours fort. C'était pas, voilà, il y avait pas le fini bel cantiste qu'on peut kiffer les très grandes Violetta. Et puis petit à petit, effectivement, quelque chose s'est mis en place et l'incarnation est devenue extrêmement bouleversante, et notamment dans ce Addio del Passato qu'on vient d'entendre, où là, bon, elle chantait ça sur un souffle et c'était dans un murmure avec, bon, il y avait des failles dans la voix, bien sûr, de temps en temps, mais ces failles qui rendaient encore plus bouleversante son incarnation. Donc oui, c'est quand même, et puis oui, c'est une incarnation qui va mûrir, bien entendu, donc c'est un triomphe pour elle.
Jean Ardenne.
Je rajoute
votre voix.
Voilà, ma voix à toutes ces éloges. On a notamment entendu dans l'extrait un passage où elle joue, où elle parle. Il y a ces passages de mélodrame dans la Traviata, donc où il faut parler sur de la musique. D'habitude, ça sonne étonnant, enfin un peu faux, un peu bizarre, un peu non naturel. Elle joue aussi naturellement qu'elle chante. Évidemment, c'est lié, on en parlera tout à l'heure, à la direction de Deborah Warner, qui a choisi cette Traviata, qui voulait une jeune Traviata, qui voulait une prise de rôle, qui voulait, Vanina Santoni, qui est d'une certaine manière dans la même dizaine que Marie Duplessis, la fameuse dame aux camélias qui est morte à 23 ans. Évidemment, ça joue. Elle est belle, elle est merveilleuse, aussi bien vocalement que même au niveau de l'incarnation, la manière dont elle est illuminée par cette mise en scène, la manière dont elle est habillée, le costume et cette robe rouge au début est somptueux et rend d'autant plus douloureux le troisième acte où elle va sombrer. On la voit clouée dans son lit d'hôpital. Vraiment une prise de rôle de cette qualité, c'est un très très bel exemple de ce qu'est la jeune génération de chant français aujourd'hui.
Alors pour autant, Emmanuel Dupuis, elle n'est pas seule sur scène a priori, sauf si tous les autres personnages ont été supprimés de cette production. Que dire du reste du plateau vocal?
Alors Alfredo, c'est un ténor qui s'appelle Albani, qui s'appelle Saïmir Pirgu ou Pirgu, je ne sais pas. Donc c'est un ténor qui a un très beau timbre, à la fois solaire et charnel. Mais là aussi, j'ai trouvé que ça manquait par moments un petit peu de nuance et bon, de culture belcantiste, disons. Laurent Naouri chante Gère mon père. Alors Laurent Naouri, c'est un chanteur qui a une autorité naturelle et une présence de comédien absolument exceptionnelle. Ceci étant, c'est pas le grand baryton Verdi qu'on peut espérer dans le rôle de Germont. Il n'a pas les phrasés du violoncelle qu'a par exemple un Ludovic Tézier, dont on parlera tout à l'heure à propos de Simon Boccanegra.
Pour vous, Charles Arden?
Laurent Naouri, je l'ai trouvé excellent tout de même, d'après ce que lui demande de faire Deborah Warner. Elle le place très très droit, très très raide. On a vraiment le père qui représente la morale bourgeoise, qui vient dire bon, maintenant ça suffit à Violetta, tu arrêtes avec mon fils, sa sœur a besoin de se marier, tu arrêtes de jeter l'eau propre sur la famille. Et du coup, Deborah Warner, je trouve que d'ailleurs c'est un peu exagéré ce qu'elle lui fait faire. Il est toujours droit, raide, avec son chapeau dans une main et son manteau sur l'autre bras, et il est tout de même capable de rendre quelque chose de très intéressant, qui est cette noblesse distinguée. On dirait un gentleman british. Il a vraiment une stature qui m'a beaucoup plu. Pierre Gou, je pense qu'on peut dire Pierre Gou parce que justement ses qualités de chanteur ont permis à ce ténor albanais d'obtenir la nationalité italienne grâce à son travail. Il a été distingué de cette récompense. C'était sa 100e Traviata, la première du Théâtre des Champs-Élysées, ce qui est quand même impressionnant. Et ça s'entend tout de même, ça se voit. Il a beaucoup du ténor italien, il a beaucoup d'effets, il a un aigu qui passe très bien. C'est aussi dû au choix qu'a fait Jérémy Rohrer, le chef d'orchestre, de rebaisser le diapason. Donc il est extrêmement à l'aise dans la couverture et dans les sons qui s'élèvent. Il a beaucoup de registres, beaucoup de dolce, de mezza voce. Bon, ça cravate un peu des fois, et lui, il sort clairement de la mise en scène quand il joue, il est un peu taquin, il vient comme un petit chat au deuxième acte pour revenir dans les draps de Violetta, puis après on voit qu'il se rappelle de ce qu'il lui avait demandé Deborah Warner, et il redevient sérieux.
Vous êtes d'accord, Sophie Bourdet?
Oui, je suis d'accord sur l'essentiel. En tout cas, cet Alfredo, il m'a beaucoup plu parce qu'il est très humain, il existe vraiment, et c'est quand même un personnage qui est souvent un peu sacrifié. Il est fadasse, hein, Alfredo. Et là, on a un Alfredo qui est sanguin, on sent qu'il est vraiment amoureux, mais qu'en même temps, ça le pousse à des réactions extrêmes. Mais là encore, c'est la direction d'acteur de Deborah Warner qui l'aide à pousser le personnage très loin. Et pour Naouri, bah oui, il a ce côté très, très engoncé, très grand bourgeois. Mais moi, j'aime bien cette lecture un peu différente du personnage qu'on nous montre parfois comme très manipulateur et se servant de son ascendant sur Violetta pour finalement on ne sait pas trop s'il compatit vraiment avec elle ou s'il est content qu'elle aille dans son sens. Là, il ne comprend pas ce qui se passe du tout et c'est intéressant, c'est cet homme complètement dépassé par les événements.
Et la mise en scène vous a-t-elle semblé d'un parti pris intéressant? Est-ce que la lecture proposée par Deborah Warner, qu'on n'a pas beaucoup vu en France de production, de mise en scène lyrique, de cette grande metteur en scène, qu'en avez-vous pensé, Sophie Bourdet?
J'attendais beaucoup et sans doute un peu trop, notamment parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps son Billy Budd qui est sorti en DVD, qui est un spectacle extraordinaire. Là, c'est pas un spectacle extraordinaire, c'est pas révolutionnaire, c'est très bien fait. C'est le contraire du Simon Boccanegra dont on parlera tout à l'heure, c'est scénographie minimale, direction d'acteur, extrêmement poussé. Et scénographie minimale parce qu'en fait, voilà, il y a des coussins, des fleurs, quelques miroirs, pas grand-chose. Il y a une idée intéressante, c'est qu'il y a deux Violetta. C'est la vraie et son double malade en blouse de patiente. Et on ne sait jamais trop si laquelle est la vraie. Si la comédienne Aurélia Thierry joue la vraie Violetta qui se rappelle de son passé brillant, ou si c'est la Violetta flamboyante qui pressent son avenir terrible parce qu'elle sait qu'elle est malade. Donc on ne sait pas trop, et je trouve que ça fonctionne moins justement au dernier acte quand le double disparaît, qu'elle se retrouve dans son lit d'hôpital très choyée par une infirmière aux petits soins, etc. Et là j'ai commencé à m'ennuyer un peu, j'avoue, parce que pour moi ça collait pas du tout avec le fait que Violetta, normalement, est toute seule, vraiment, meurt seule, agonise seule, et c'est une injustice terrible. Là, elle est dorlotée, Alfredo et son papa n'ont même pas besoin de venir, hein. Il y a des gens pour s'occuper d'elle.
Alors, je ne veux pas en effet pinailler ou faire le vieux barbon, mais alors les doubles sur les plateaux d'opéra, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il faut arrêter là, qu'on n'a plus le droit, parce que Emmanuel Dupuis, on en a vu énormément là.
On a beaucoup vu ça. Et alors au début, moi, ce procédé et l'idée du flashback, puisqu'en fait, ce double de Violetta assiste à revit sa propre histoire et sa propre déchéance. J'ai trouvé ça quand même assez facile. Et au début, moi, le spectacle m'a semblé un petit peu paresseux quand même, parce que bon, j'ai rien contre le dépouillement. C'est plus ça peut même être une grande qualité, mais c'est vrai que voilà, je trouvais qu'au début, il y avait effectivement un grand dépouillement visuel, mais aussi un dépouillement du côté des idées. Et puis finalement, quand même, mon intérêt est allé crescendo, là aussi. Je trouvais que pendant la fête chez Flora, à la fin du deuxième acte, la façon dont les mouvements d'ensemble du chœur, les rapports entre le chœur, les solistes, tout ça a été réglé avec un sens du détail assez extraordinaire. Et moi, contrairement à Sophie, j'ai beaucoup aimé le dernier acte. Parce que là, effectivement, on se retrouve vraiment à l'hôpital, il n'y a plus le double. Violetta vit sa propre agonie.
On est dans le temps présent, si je puis dire, de la narration telle que vue par Deborah Warner.
Exactement. Donc elle vit sa propre agonie. Et là, Deborah Warner règle une espèce de chorégraphie morbide que Vanina Santoni, Charles l'a dit tout à l'heure un petit peu, exécute avec une puissance corporelle absolument éblouissante. On a ces jambes nues qui sont sculptées par les lumières de Jean Calment. Enfin, c'est tout ça. Moi, je trouvais ça très très touchant.
Charles, quelques mots sur la mise en scène.
Pareil, le dernier acte m'a vraiment bouleversé. Ça m'a rappelé un peu Amour de Haneke, c'est-à-dire quand on voit une femme qui est en train de perdre la vie, le fil de vie qui s'éteint de ses yeux. Et Vanina Santoni, elle le joue en le chantant, donc elle est en équilibre sur son lit d'hôpital. Elle a un pied qui essaie de caresser le sol comme sa voix essaye de s'élever. Mmh. Elle tombe, enfin c'est tout de même merveilleux. Bien sûr, on a déjà vu des doubles, bien sûr on a déjà vu
beaucoup.
Mais bon, un opéra, c'est pas non plus un brevet d'inventeur, on peut faire des très belles choses sans.
Là, il n'y a pas de soucoupe volante dans cette production, donc c'est quand même
volante
à signaler.
Il n'y a pas de carton de clochard, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas un énorme bateau désossé. Évidemment, on en attendait beaucoup plus parce que c'est la deuxième fois que Deborah Warner fait la Traviata. Elle l'avait déjà fait au Wiener au festival. Il y a 6 ans, elle a dit « je voulais faire mieux, je voulais faire plus ». À cause de cette prod, il y aura que 2 autres productions scéniques au Théâtre des Champs-Élysées, vu le prix qu'elle coûte. Donc en effet, vu comme ça, on s'attendait à beaucoup plus, mais c'est déjà très efficace.
Bon, un tout petit mot chacun quand même, parce qu'on n'a pas évoqué la direction d'orchestre de Jérémy Rohrer, qui fait souvent débat ici. Emmanuel Dupuis.
Bon, moi je suis toujours un petit peu dubitatif quand on a recours aux instruments anciens dans le répertoire romantique, parce que souvent on entend davantage les limites que les bénéfices de ces instruments anciens. Et au début de cette Traviata, c'était un petit peu le cas. Je trouvais que la patte orchestrale manquait d'unité. Alors il faut dire que l'acoustique du Théâtre des Champs-Élysées est quand même assez sèche et ne pardonne rien. Mais là aussi, petit à petit, les choses se sont mises en place. Les équilibres étaient bien meilleurs au deuxième et au troisième acte. Et puis la direction de Jérémy Rohrer est toujours. Il y a une fermeté. C'est toujours très allant, très vif. Donc c'était là aussi assez convaincant, effectivement.
Mais vous êtes rentré de mauvaise humeur. Est sorti joyeux, j'ai l'impression, Emmanuel Dupuis, avec
exactement
cette production. Sophie Bourdet.
Et entièrement d'accord avec Emmanuel, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est ce fameux là à 432 Hz, j'ai pas trop vu la différence, mais en revanche, les instruments d'époque, ça. Ah.
Je pense que les chanteurs, eux, voient la
différence. Oui, absolument, et tant mieux pour eux.
Les notes sont pas les mêmes.
C'est confortable pour eux, c'est beaucoup mieux. Pour nous, c'est surtout les instruments d'époque qui font la différence, je trouve.
Exactement.
Charles, tout petit mot.
Instruments anciens, c'est pas les instruments baroques, c'est les instruments de l'époque de Verdi, c'est 1853. Comme la mise en scène, c'est 1953, on pourrait dire, les premiers traitements efficaces contre la tuberculose. Moi, j'ai vraiment entendu le son très bas. 432, c'est très bas. Mais quand même, Jérémy Rohrer a gardé l'intensité. Et en effet, c'est extrêmement utile et efficace pour les chanteurs. Le fait aussi qu'il ait supprimé les suraigus, les ornements qu'ont rajouté la tradition. Voilà.
Oui, qui ne nous manque pas.
Ouais, je vous manque pas. Ah. Bon, à Traviata de Verdi. C'est jusqu'au 9 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et cette Traviata sera diffusée sur France Musique le 16 décembre à 20h. À suivre dans la dispute, Simon Boccanegra, Scarlatti et un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musicale, une autre production lyrique verdienne à l'Opéra de Paris, cette fois avec Simon Boccanegra, dirigé par Fabio Luizzi et mise en scène par Calixto Biglietto, soit le même tandem qui avait présidé au retour de Lyre à l'Opéra d'Aribert Reimann il y a 2 ans. Simon Boccanegra, c'est un opéra en un prologue et 3 actes. C'était aussi au départ sur un livret de Francesco Maria Piave. Après une pièce de théâtre, ça a été créé en 1857 à la Fenice, toujours, donc 4 ans après la Traviata, mais en l'occurrence c'est un échec et du coup il y a une seconde version sur laquelle beaucoup vont travailler longtemps et surtout le livret sera repris par Arrigo Boito. Cette fois c'est le succès, la première à la Scala de Milan en 1881. C'est cette deuxième version qui depuis est jouée. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vu la première version de cette je ne crois pas que ce soit jamais joué. Ça dit, comme le deuxième livret n'est pas beaucoup plus simple que le premier, c'est peut-être pas la peine de revenir au premier. Bon, disons pour aller vite que ça se passe à Gênes, on est au 14e siècle, ça va durer 25 ans entre le début et la fin, qu'il y a beaucoup de rivalité entre l'ancien doge, le nouveau doge, il y a des histoires de famille, enfin bref, c'est très très compliqué. Si vous avez envie de l'expliquer, vous le ferez, mais hors antenne sans doute. On va écouter Ludovic Tézier dans le rôle titre à l'acte 1.
Oh,
Toujours, les extraits que nous envoie l'Opéra de Paris étant affreusement, terriblement chantés, comme on l'entend sous ma voix un peu prise ce soir. On s'arrête là pour cet extrait de Simon Boccanegra. Et si Charles Ardenne commence à nous en parler ?
Alors évidemment, la première image qui marque quand le rideau se lève, c'est l'immense bateau de Simon Boccanegra, l'immense coque, en tout cas immergée du bateau, qui occupe tout l'espace, tout le cadre de scène, en largeur et en hauteur, et qui tourne incessamment sur ce plateau.
Emmanuel Dupuis, ça vous a donné la tête qui tourne.
J'ai rien contre les tours de bateau, mais au bout du 10e tour, j'avais un peu le mal de mer.
Ouais, c'est ça. Ça donne le mal de mer.
Poursuivez, Charles.
Il tourne assez lentement.
Ouais, mieux, oui.
Et évidemment aussi, ce qui frappe, c'est le noir, la dimension très sombre du plateau. Ce bateau même est noir. Il est à l'arête, il est à l'os. C'est-à-dire qu'on a juste la charpente. Il y a juste des néons qui sont dans cette charpente qui éclairent un tout petit peu.
Des néons d'époque. Des néons. 13e siècle, hein, au 14e.
Et il y a juste un bout de coque qui reste encore sur ce bateau. Évidemment, c'est une métaphore, c'est plein de métaphores même, hein. C'est métaphorique pour Simon Boccanegra, qui donc a été le premier doge de Gênes élu, qui était dans la réalité le frère d'un corsaire, mais bon, Verdi, Piave, Boito en ont fait un corsaire, c'était
lui-même,
plus simple,
oui, oui.
Voilà, lui-même. Donc évidemment, le bateau renvoie à la mer, le bateau sombre, le plateau complètement sombre, revient au fait qu'il vient du fin fond de la mer, qu'il vient du fin fond du peuple, parce que c'est un plébéien qui va prendre le contrôle de Gênes, qui est une ville surpuissante, qui rivalisait avec Venise, hein, à l'époque, évidemment. Et ce bateau, avec juste un bout de coque, bah, en fait, on ne sait pas, est-ce qu'il est en train de se disloquer, est-ce qu'il est sur un chantier en train de se construire, et donc c'est la même question, qu'est-ce qui va arriver à Simon Boccanegra ? Est-ce qu'il va réussir à bâtir un empire ? Ou est-ce qu'il va sombrer ? Et évidemment, il y a aussi tout l'enjeu personnel. Est-ce qu'il va retrouver sa femme ? Est-ce qu'il va retrouver sa fille ? Tout ça marche. J'ai trouvé assez bien au niveau de la scénographie. Par contre, en effet, au niveau de la direction d'acteur, il y a un énorme problème. C'est que Boito, il répète toujours le même système avec les personnages qui viennent du fin fond de la scène, du noir, et qui avancent à l'avant-scène où il y a un peu de lumière. Ensuite, ils retournent, ils reviennent, ils doivent être plantés.
Tout ça pendant que le bateau tourne, vous imaginez.
Pendant que le bateau tourne, en effet.
Beaucoup de d'anti-vomitif.
Ah oui, un peu de Vogelaine, voilà.
Un peu de Vogelaine, je voulais pas faire de publicité, Charles Ardenne, c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu, j'ai eu un blanc.
Pour moi.
Restons quand même sur cette dimension, parce que moi, Boccanegra, c'est pas non plus mon metteur en scène favori. Loin s'en faut, on a vu pas mal de choses à Paris, mais on en parle souvent aussi par des sorties DVD. Emmanuel Dupuis, sur cette production.
Moi, je trouvais que c'est une production minimaliste dans son dispositif, mais aussi dans sa conception. Parce que, bon, déjà...
Vous n'avez pas dit ça tout à l'heure sur Traviata.
J'ai déjà dit ça, bah peut-être.
Mais est-ce que ça s'est arrangé en cours de soirée pour Simon
Boccanegra ? Non, là, pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait, bon, déjà, le principe du décor unique, ça pose quand même un premier problème, c'est que il n'y a aucun changement d'atmosphère. Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Arnaud,
il se passe du temps et beaucoup de choses.
Il se passe 25 ans entre le prologue et le premier acte. Or, là, entre le prologue et le premier acte, il n'y a aucun changement, aucune évolution, ce qui quand même est déjà un premier problème, et ce qui n'arrange pas la lisibilité de l'intrigue qui est très compliqué.
Ah oui.
Le deuxième problème, je trouve, c'est que les thèmes profonds de l'opéra, ne sont pas vraiment abordées ou de façon assez superficielle. Et notamment, dans Simon Boccanegra, il y a une thématique politique extrêmement importante. Verdi et son librettiste Piave nous montre comment le pouvoir isole le monarque du peuple.
Ça devrait résonner là,
voilà,
quand même.
Hein. C'est quand même un thème qui a une certaine résonance actuelle. Or ça, c'est à peine effleuré, seulement à la fin du premier acte où pendant que le peuple se révolte, Simon est à l'avant-scène, les bras en croix, telle une figure christique qui vit sa passion du pouvoir, passion au sens religieux du terme, et qui est victime de la vindicte populaire. Mais voilà, après sur la direction d'acteur, là je rejoins les réserves qu'a mise Charles. Il y a une certaine puissance dans le jeu des chanteurs, enfin des solistes, mais je trouvais que le chœur était assez mal dirigé. Il arrivait du fond les choristes arrivent du fond du plateau et se plantent à l'avant scène. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Et après, bon, il y a quelques idées comme le fantôme de Maria. Maria, qui la femme que Simon aime et qui meurt pendant le prologue, et son fantôme va revenir comme le double de Violetta d'ailleurs tout à l'heure. Le fantôme de Maria là, va revenir pendant tout l'opéra. Il y a aussi quelques vidéos qui montrent les personnages en gros plan. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps sur les scènes de théâtre et d'opéra. Mais tout ça m'a semblé tenir du procédé et ne pas vraiment relever d'une lecture très approfondie.
Sophie Bordet.
Bah, c'est comme si Calixto Bieto avait eu cette idée du bateau et qu'après, c'était fini, il n'était plus inspiré. Et on pourrait admettre qu'il creuse la dimension psychologique plutôt que la dimension politique, mais il ne le fait même pas bien. Ce fantôme, moi je trouvais que c'était une assez bonne idée, ce fantôme de Maria Boccanegra qui se lève à la fin du prologue et qui va circuler sur le plateau pendant toute la suite de l'opéra. Mais finalement, c'est la personne la plus vivante de la production, ce qui est problématique. C'est-à-dire, s'il avait creusé tous les personnages autant qu'il a creusé la direction de ce fantôme, on aurait des choses intéressantes. Mais là, on a des scènes de foule qui sont ratées parce que à cause de ce bateau, il n'y a pas d'éléments qui réverbèrent le son en fond de scène, donc ils sont obligés de venir à l'avant aussi pour qu'on les entende. Donc, c'est toujours très statique et ça rend le livret est déjà compliqué, ça rend le sens des scènes encore plus compliqué puisqu'ils sont tous en randonnion, on comprend pas très bien ce qu'ils font, et même quand les personnages interagissent, ils le font d'une manière tellement hiératique que ça tue toute l'émotion. Donc je trouve scéniquement cette production assez ratée, alors qu'au début, les 5 premières minutes, quand j'ai vu d'abord un portique avec des escaliers, quelque chose d'assez misérable, et ça a tourné et on a vu l'étrave d'un navire gigantesque, là je me suis quand même l'espace de 5 minutes, waouh.
Et après, vous êtes dit waouh beaucoup quand même pour Ludovic Tézier. Venons-en à lui, Sophie Bordet.
Ah oui. Rien que pour lui, il faut y aller.
Enfin, ou que pour lui.
Lui. Non. Il y a quand même d'autres grands chanteurs. Bon, il y a des costumes horribles, mais ça, on peut passer dessus. Épouvantable.
De chez Tati, sûrement.
Il y a des choses très bien chez Tati.
Tézier est phénoménal. C'est un peu, enfin bon, j'ai l'impression de me répéter chaque année. C'était pareil l'an dernier avec son Marquis de Posa dans Don Carlos. Il était phénoménal aussi. Et là, il est quand même très très présent. Il est tout le temps sur le plateau. Il chante beaucoup, donc on a le temps d'en profiter. C'est admirable ce qu'il fait. Il remplit l'espace de Bastille. On a l'impression sans aucun effort, alors que c'est quelque chose de quasiment impossible. C'est toujours chargé d'émotions, mais c'est jamais appuyé. La ligne de chant est quasi parfaite, il y a énormément de nuances, une qualité d'intonation, et enfin moi j'étais stupéfiée.
Vous partagez, messieurs, Emmanuel Dupuis ?
Sur Ludovic Tézier, bien entendu, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand baryton Verdi d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec effectivement là des phrasés infinis, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, et puis une palette expressive d'une richesse incroyable, c'est à la fois dans la tendresse paternelle ou dans les colères du doge, il est absolument bouleversant. C'est tout simplement exceptionnel.
Oui, puis il a une présence scénique aussi qui est magnifique. Hein. Charles Ardenne.
Alors moi, il était annoncé souffrant au début du spectacle. Donc Monsieur Tézier est annoncé souffrant. Oh, mais il a quand même tenu.
Il a tout cassé.
Ah ouais, c'est ça, vocalement, quand il est souffrant, on sait pourquoi c'est le baryton verdien du moment, de sa génération, de ce que vous voulez. Il a des médiums d'une ampleur qui, en effet, remplissent toute la Bastille. Il monte dans des aigus, mais parfaitement couverts. Il y a un métal, mais qui est vraiment superbe, qui rayonne. Par contre, moi, il était vraiment souffrant au niveau scénique, au niveau du jeu d'acteur, c'était une catastrophe. Et j'étais très déçu parce que pour plein de raisons, mais bon, parce que c'était son grand défaut. Il y a plusieurs depuis de nombreuses années, on disait c'est un excellent chanteur, mais au niveau du jeu, c'est pas tout à fait ça. J'avais beaucoup apprécié justement sa performance même d'acteur dans Don Carlos. J'avais vu Thésier remercier Calixto Bieto d'avoir fait de lui enfin un acteur pour ce Simon Boccanegra. Moi, j'ai vu une performance vraiment, vraiment catastrophique. Il réagissait de la même façon quand il voyait sa femme en train de mourir dans un sac plastique, quand il allait boire le poison dans un seau, ou quand il retrouvait enfin sa fille, il passe le temps avec les mains dans les poches de son imperméable. Pour mourir, il se met à trembler de la main. C'était ridicule.
Sophie Bourdet, un peu de défense quand même.
Non, je
même
peux
si
pas,
la subtilité du jeu n'est pas ce qui caractérise.
Non, c'est vrai.
Très grand chanteur
et il n'est pas
Ludovic
du tout aidé
Thésier
par Calixto Bieto.
Voilà, mais c'est ça aussi. Hein.
Donc même le soir de la première où il n'était pas annoncé souffrant, c'était assez pauvre scéniquement. Et c'était sa prise de rôle scénique.
Avec Maïkovski, la mise en scène n'était pas terrible, mais il y avait une direction d'acteur quand même.
Oui, mais là aussi à ce niveau-là, c'est les choix qu'il fait. C'est la manière dont il l'incarne, c'est la manière dont il le vit. Quand il voit sa femme en train de mourir dans un sac plastique, il s'assoit, il reste comme ça, le visage dans le vide, et puis d'un coup, il tourne la tête.
Son metteur en scène.
Il recule.
Mais ça, c'est la faute du metteur en scène.
Tout peut mieux s'investir. Tout ce type de mouvement, même là, peut mieux s'investir et se travailler.
C'est pas un acteur né, tout le monde le sait, c'est pas un acteur né. Ludovic Thésier, il a besoin d'être aidé, d'être dirigé. Et là, effectivement, ça n'a pas été le cas. Et je pense que Varlikovski en avait tiré un bien meilleur parti l'année dernière. Dans Don Carlos.
Alors, cela dit, Charles, vous avez, vous, entendu un autre plateau que Sophie et Emmanuel ?
Tout à fait. Moi, j'y suis allé le 1er décembre donc, pour avoir une autre Amélia, pour avoir Anita Hartig, qui était, elle, exceptionnelle. Elle a fait un triomphe aussi éclatant que Ludovic Thésier, dont je tiens à rappeler que j'enlève rien des qualités vocales époustouflantes. Mais Anita Hartig, elle a cette jeunesse, cette fraîcheur, cette beauté du timbre jusque dans les aigus. Elle a un vibrato d'une rapidité, d'une intensité même croissante, et ça rend un personnage sublime d'actrice aussi verdienne.
Emmanuel Dupuis.
Eh bien, moi, j'ai entendu, je crois que c'est le cas de Sophie aussi, Maria Agresta, que j'ai pas trouvé extraordinaire. C'est pas une mauvaise chanteuse, loin de là, mais c'est quand même c'est une voix assez ordinaire, et l'expression aussi est assez, la composition du personnage est assez ordinaire, et c'est d'ailleurs un petit peu le cas de tout le reste du plateau. Je mettrai à part peut-être Nicolas Alaïmo, qui est vraiment un chanteur verdien avec beaucoup de style, et même pour exprimer la haine de ce méchant Paolo.
Sophie, pour finir.
C'est un méchant génial, mais moi je mettrais aussi de côté Mika Kares, la basse finlandaise qui chante Fiesco, qui est très bien et qui pour le coup est un peu mieux dirigée que les autres. Donc le personnage a des ambiguïtés tout à fait intéressantes.
On doit s'arrêter là, parce qu'il y a encore pas mal de sujets à venir. Mais Simon Boccanegra donc, est à l'Opéra Bastille, l'Opéra de Paris, jusqu'au 13 décembre. Ce soir-là, la production sera retransmise en direct dans les cinémas et sur Culture Box. Donc j'imagine que sur Culture Box, on pourra continuer à voir cette production un certain temps. On nous annonce une diffusion ultérieure sur France 2. Et puis Simon Boccanegra sur France Musique, ce sera le 30 décembre à 20h. Et c'est le moment du coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour, ça y est, le suspense est terminé, Cendrillon de Massenet, sous la direction de Claude Schnitzer, dans mise en scène d'Ezio Toffolutti, c'est à Angers-Nantes, opéra. Emmanuel Dupuis, c'est l'instant ou jamais de nous parler de cette production.
Eh bien, d'abord, je veux parler de cet opéra, parce que c'est le bonheur, c'est d'abord de retrouver cet ouvrage. C'est un chef-d'œuvre d'un raffinement extrême. C'est peut-être la partition la plus raffinée de Massenet, et c'est un ouvrage qui allie l'humour, la poésie, le merveilleux sur un pied d'égalité, et ça, pour moi, entendre Cendrillon, c'est toujours un bonheur. Alors, on se souvient que Laurent Pellier avait signé une production mémorable il y a quelques années, une production qu'on peut voir en DVD d'ailleurs chez Erato avec Joyce de Donato. Alors bon, en Gênante, le plateau n'est pas tout à fait du même niveau, et c'est Ezio Tofolutti donc qui met en scène de façon plus conventionnelle que ne le faisait Laurent Pellier. Mais visuellement, c'est quand même très réussi. Tofolutti est avant tout décorateur, et c'est lui qui signe les décors, les costumes et les lumières de cette production. Cette production qui se déroule dans un univers de toiles peintes qui ont beaucoup de charme, un charme certes un petit peu suranné, mais un charme certain tout de même. Et puis avec un sens de la narration toujours bien affirmé et qui rend extrêmement lisible cette intrigue qui prend quelques libertés avec le conte que tout le monde connaît. C'est très bien dirigé par Claude Schnitzer, qui est un chef de métier qui exalte tout le raffinement de la partition. Et bon, quelques inégalités dans le plateau, mais les deux rôles principaux, c'est-à-dire celui de Cendrillon et celui du prince charmant, sont très bien tenus. Cendrillon, c'est Rina Tcham, qui est très touchante, avec beaucoup de délicatesse dans sa voix. Et le prince, c'est Julie Robard-Gendre, qui est un mezzo plus sombre, donc idéalement androgyne, et qui fait passer quelque chose de très charnel dans la vibration de son chant. Donc voilà, c'est un spectacle réjouissant à aller voir en famille. Il y a une représentation ce soir à Nantes, mais il faut se dépêcher parce que c'est à 20h.
C'est à 20h, bon, vous n'habitez pas loin. Et ensuite, ça va se poursuivre à Angers, dans le Grand Théâtre, les 14, 16 et 18 décembre, cette production de Cendrillon de Massenet.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier sujet de cette émission musique, c'est un disque de Jean Rondeau. Pour son 4e album de musique de clavecin sur le label Erato, Jean Rondeau a choisi 15 sonates que Scarlatti a composées lors de son séjour au long cours à la Cour royale de Madrid. Le jeune musicien a conçu un programme, on va en parler pour cet album, pour nous raconter une histoire, me semble-t-il. On va écouter, à titre d'exemple, la sonate en ré mineur, Kirkpatrick 141.
Thank you.
Eh bien, c'était Jean Rondeau qu'on vient d'entendre, un extrait de cet album des sonates de Scarlatti. Sophie Bourdet, pour commencer.
Ça nous change de Verdi. Hein.
Ouais.
Bah, c'est un disque très séduisant. Ça danse et ça chante énormément, on vient de l'entendre. Moi j'ai un faible pour la K175 qui a des allures de danse macabre, qui est en la mineure. Et il y a beaucoup de couleurs, un grand sens des dynamiques. On entend aussi dans celle-là qu'il y a des aspérités rythmiques, il a pris des libertés, il met des silences à certains endroits, il gère le rythme un peu comme il veut. C'est un disque qui m'a plu et en même temps je suis pas complètement aussi enthousiaste que je l'étais avec son précédent disque Bach, parce que même s'il y a beaucoup de liberté, je n'arrive pas à oublier le travail qu'il y a derrière cette liberté. Je sens quand même l'effort, alors que je l'oubliais complètement dans le disque Bach, et je l'oublie complètement quand j'écoute par exemple Pierre Antaille dans le même répertoire.
Premier regard, en première écoute, Emmanuel Dupuis.
Moi j'ai probablement été plus convaincu que ne l'a été Sophie. En fait, il faut rappeler que Scarlatti a composé 555 sonates et que la difficulté, d'abord, quand on réalise un disque de sonates de Scarlatti, c'est de choisir. Ouais. Et Jean Rondeau lui a choisi des sonates qui couvrent à peu près toute la période créatrice du compositeur et qui montrent des visages extrêmement variés, puisque on passe de l'élégie à des rythmes de fandango, de la méditation à la danse. Mais il y a un visage de Scarlatti qui n'apparaît pas dans ce disque. C'est, je dirais, le visage galant. Et ça tient vraiment à la personnalité de Jean Rondeau, parce qu'il n'y a rien de galant, il n'y a rien de mièvre dans son interprétation. Au contraire, il y a une volonté d'exprimer de façon très éloquente et même parfois très théâtrale le foisonnement de couleurs et d'affects qu'il y a dans cette musique. Et là, on l'a entendu là dans cette sonate 141, la façon dont il ose les silences, c'est absolument culotté, on peut dire. Il y a une vraie prise de risque. Et voilà, moi j'ai entendu tout le temps une volonté de manifeste, de communiquer, de faire parler la musique, de prendre l'auditeur par la main et de le guider dans le labyrinthe de sons et de couleurs que constituent les sonates de Scarlatti. Et pour moi, le maître mot de cet album, c'est l'audace. C'est l'audace d'un rubato très affirmé, parfois, comme dans la 119 ou la 180, l'audace de tempo échevelé, comme dans la 6, où on a l'impression qu'il tape du talon, comme dans un fandango, justement, et ou au contraire, l'audace d'un tempo totalement étiré, comme dans la 132, qui dure plus de 10 minutes, et avec toujours un discours qui se renouvelle et qui creuse vraiment les affects de cette musique. Donc pour moi, c'est plutôt une grande réussite.
Donc vous pas gêné par le travail que sentait Sophie Bourdet à l'écoute?
Non, pas du tout, ce qui n'invalide absolument pas l'approche de Pierre Antaille, qui est un très très grand interprète aussi de Scarlatti.
Charles Ardenne, sur ce disque de Jean Rondeau.
Moi, j'ai été assez énervé, je vais dire clairement les choses, quand j'ai reçu l'album, parce que, pardon, je suis peut-être un peu râlé pas crête, un peu bête, mais justement, quand quelqu'un fait un disque avec 16 sonates de Scarlatti sur 555, j'aimerais bien qu'il me dise pourquoi il les a choisis. Alors Emmanuel a bien dit que lui, il y voyait différents visages, des élégies, différents thèmes. Moi aussi, j'ai commencé à réfléchir. Ah oui, par rapport aux tonalités, il choisit des cycles de quintes, il fait des marches un peu raisonnées, par tierces, etc. Je veux bien, mais enfin, on passe de 208, 175, 69, 141, etc.
On parlait des numéros de...
Des numéros, du catalogue, tout à fait. J'aurais bien aimé qu'il me dise pourquoi il a choisi celle-là. Au lieu de ça, le disque...
Plutôt que de vous le dire, vous mettez le disque sur votre matériel d'écoute, et est-ce que ça vous produit quelque chose? Est-ce que ça vous raconte quelque chose? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, quand je parlais de récit tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, moi, à l'écoute.
Moi, non, le récit que j'ai vécu, c'est que j'ai trouvé le début, extrêmement agressif. Je l'ai écouté sur vraiment des bonnes enceintes et c'est très, très bien capté. J'allais dire quelque chose de bête, même c'est trop bien capté. C'est très présent, c'est très fougueux, mais c'est même martelé. Là, on a entendu justement la sonate en ostinati qui n'arrête pas d'être des martèlements. Il écrabouille plusieurs notes dans les graves et dans les aigus. Il écrase des secondes, qui sont totalement illogiques par rapport à ce qu'est ce morceau. Bien sûr, ces sonates-là, elles ont une liberté rythmique, mais à ce point-là, il fait n'importe quoi avec le rythme.
Emmanuel Dupuis va vous taper dans peu de temps. Il est à côté de vous, méfiez-vous. Emmanuel, intervenez.
Vous ne pouvez pas dire qu'il fait n'importe quoi, effectivement.
Avec le rythme.
C'est une musique qui permet quand même... Il y a beaucoup de rubato, effectivement. Et, et,
Alors, La définition du rubato, c'est de garder la pulsation et de vivre dedans. Mais là, on la perd.
Non, je suis pas d'accord. Il prend effectivement une grande liberté avec la barre de mesure, c'est certain. Mais justement, c'est cette liberté qui est intéressante. Et c'est sa liberté d'interprète, je veux dire.
Sophie, intervenez.
Je ne sais pas quoi dire.
C'est
vrai qu'il y a un défaut d'explication, parce qu'on a dans ce livret un texte qui est attribué à Scarlatti, qui est en fait écrit par Jean Rondeau, qui est extrêmement compliqué, chantourné, qui en fait n'explique pas grand-chose et peu agacé. Maintenant, je peux aussi écouter ce disque sans rien lire et me laisser emporter par cette alternance de danse lente, de danse rapide, et ça ne me dérange pas plus que ça, donc je suis un petit peu au milieu.
Moi, pardon,
au-delà du fait que ça,
il faut préciser.
Interroger.
Ouais, non, mais même dans le livret, il n'y a que, donc, on a d'abord une photo d'un garçon sur des patins à roulettes. Bon, j'imagine que c'est Jean Rondeau. Après, on a une photo de Jean Rondeau. On a une citation de Gilles Deleuze. Le rôle d'un professeur, c'est réconcilier les élèves avec leur solitude. Très bien. Ensuite, on a une photo avec, comme les, vous savez, les filtres sur des réseaux sociaux. Et ensuite, on a une lettre, voilà. Donc, moi, j'ai commencé à lire à Sa Majesté la Reine Donna Maria Barbara. Donc, c'est Scarlatti qui expliquerait à la Reine d'Espagne comment un jour, un chat a marché sur son clavier, ça lui a inspiré une fugue, ce qui est une espèce de légende qui n'a pas existé. Et tout à la fin, en tout petit, vous savez, comme en bas des contrats d'assurance, on lit qu'en fait, ah oui, le texte de ce livret est une invention, et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres notes d'intention.
Bah, c'est fait il plaisir, pourrait au minimum expliquer. Il a eu envie d'écrire ce texte.
Oui, bah, il n'est pas là pour se faire plaisir, il est là pour nous faire plaisir, bon, et puis nous instruire aussi. Nous faire plaisir à nous et raisonner sur, donner une résonance à ce programme. Je ne vois pas ce que les gens qui vont acheter ce disque pourront comprendre à la suite, à la cohérence, au choix des différentes sonates. Il y en a 555.
Ils n'ont qu'à écouter.
Ah bah non, c'est trop facile.
Il ne s'est pas lancé dans une intégrale, donc voilà, il a fait un choix.
Justement,
ce choix, après tout, c'est bon. On peut pas enlever à l'interprète sa liberté. Il y a probablement quelque chose de totalement arbitraire dans ce choix aussi.
Bah, qu'ils le disent, qu'ils l'assument dans ce cas-là.
Donc voilà, moi ça ne me dérange pas. Après, bon, moi ce que j'entends me paraît très convaincant. Et vous parliez tout à l'heure d'agressivité du son. Moi, je n'ai pas du tout trouvé. Au contraire, j'aime beaucoup cet instrument qui est un clavecin. Qui a été fabriqué en 2004 par un facteur finlandais. C'est une copie d'instruments allemands du 18e siècle. Et c'est un instrument qui a des basses très généreuses, qui permet vraiment un grand éventail de dynamique. Et c'est d'ailleurs un instrument que Pierre Antaille avait choisi pour certains de ces enregistrements de pièces de Scarlatti. Donc les grands esprits se rencontrent. Et voilà, donc moi je n'entends pas du tout cette agressivité.
Nous en restons là. Concernant ce disque de Jean Rondeau, faites-vous une opinion par vous-même, faites-vous offrir, achetez-vous ce disque, des sonates, un choix parmi les 555 qui n'a pas l'air de plaire à Charles Ardenne, mais bon, c'est comme ça. C'est chez Erato que sort ce disque, et puis on peut entendre Jean Rondeau en concert avec le programme Scarlatti, avec les mêmes ou pas? Charles Ardenne ira enquêter du côté de Lyon le 14 décembre et à Paris le 19. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Sarah Dion nous rejoint chaque soir en fin d'émission. Elle nous donne d'abord la question, nous rappelle la question de la veille et nous donne sa réponse. Sarah ?
La question était: quel est le nom de la médium et compositrice qui est l'héroïne de la pièce When I Die de Tom Luce ? Et la réponse est Rosemary Brown.
Ce soir, ouais, très bel accent, Sarah, vous avez raison. Gagner ce soir des invitations pour le spectacle Rêve et Folie, mise en scène Claude Régis, place à gagner pour la représentation de jeudi soir, après-demain, le 6 décembre. C'est à 20h30 au Théâtre Nanterre, à Mandier, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Quelle est la question, Sarah ?
Dans quelle structure a eu lieu le premier Festival de Nanterre en 1965 ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer par courriel à auditeurfc, tout ça est attaché, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. À la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et vous abonner à son podcast. Nous nous retrouvons demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie d'Ingrid Luquegade, Mathilde Villeneuve, Lucille Como et Fabrice Bousteau. À notre affiche, la rétrospective Bernard Venet au Musée d'art contemporain de Lyon, l'exposition consacrée à Martine Franck à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Il y aura un coup de cœur d'Ingrid Luquegade pour l'exposition actuellement de Sylvie Fleury à la galerie Tadeusz Ropak, et puis un petit salon de Lucille Como qui sera consacré aux ventes aux enchères de l'art contemporain.